Bonjour, 15h, on est jeudi le 13 janvier, entrée en onde un peu plus hâtive qu'à l'habitude pour notre équipe, pour une raison très simple, il y a un point de presse du trio santé. Dr Boileau, le nouveau directeur de la santé publique, Christian Dubé, le ministre de la Santé et le premier ministre François Legault. On va annoncer la levée du couvre-feu, ça a commencé à circuler ces dernières heures depuis hier soir. Donc, lundi prochain, on devrait revenir à une forme de normalité. Dernier jour de couvre-feu dimanche. Et surtout, les nouveaux paramètres pour le retour à l'école. Il y a un retour à l'école primaire, secondaire, qui est prévu, semble-t-il, ça va être confirmé, là, le lundi 17 janvier. Donc, le trio santé qui approche. J'ai dit que c'était M. Dubé. Non, je me suis trompé. C'est M. Roberge, le ministre de l'Éducation, qui est là aujourd'hui. Donc, le premier ministre qui s'approche de la tribune. M. Dubé est là aussi. Donc, c'est un quatuor. On leur cède l'antenne immédiatement. Retour dans quelques instants.
Bonjour tout le monde. Je suis content d'être accompagné du ministre de la Santé, du directeur national de la Santé publique et du ministre de l'Éducation. Écoutez, j'hésite presque à dire ça, là, mais on a quand même des bonnes nouvelles aujourd'hui dans un contexte là, que je comprends, où il y a une grande fatigue et où c'est dur pour les Québécois, surtout que ça s'accumule. Mais on voit enfin la lumière au bout du tunnel. Première chose, et puis vous pouvez peut-être poser des questions au Dr Boileau pour avoir plus de précision, mais malgré le fait qu'on ne fait pas les tests de la même façon qu'on le fait durant toute la pandémie, il reste qu'il y a une confirmation de la part des experts que le nombre d'infections, là, donc le nombre de cas, se stabilise. Et selon les experts, on a atteint, il y a quelques jours, un pic. Donc, évidemment, on se souvient tous de la courbe. Là, bien là, sur le nombre de cas, on est au pic. Bon, vous rappellerez, on l'a souvent expliqué depuis le début, ça se passe un petit peu en trois étapes. Première étape, on met en place des mesures. Deuxième étape, ça a un impact sur le nombre d'infections, sur le nombre de cas. Puis, dans une troisième étape, ça a un impact sur les hospitalisations. Donc, ce que les experts nous disent, puis évidemment, on est tous prudents, c'est qu'on peut s'attendre dans les prochains jours à atteindre le pic du nombre d'hospitalisations. Donc, il devrait ou pourrait y avoir une augmentation du nombre d'hospitalisations encore pour quelques jours, et ensuite, on atteindrait un pic, puis on espère éventuellement une descente importante du nombre d'hospitalisations. Bon, quand je dis qu'on a une bonne nouvelle, bien, la bonne nouvelle, ça veut dire que les mesures qu'on a mises en place, qui étaient dures à la fin décembre, bien, tous ces sacrifices-là que les Québécois ont fait, ça a amené un résultat. Actuellement, sur le nombre d'infections, puis on l'espère bientôt sur le nombre d'hospitalisations. Bon, l'autre chose qui est importante, et puis je laisserai tantôt, si vous avez des questions, le Dr Boileau mieux l'expliquer que moi, mais ce que je comprends, puis c'est pas mal unanime dans le monde, c'est que le variant Omicron, oui, il est plus contagieux, mais il est moins grave sur la santé des gens. Donc, ce que ça veut dire quand même, c'est quand on pense à toutes les mesures qu'il y a à prendre, bien, ça a moins d'impact et c'est quand même ça aussi une bonne nouvelle. Donc, quoi qu'il faut rester prudent. Puis, je ne le répéterai jamais assez, là, même si on est au pic ou on s'apprête à aller au pic, il reste que le pic, il est très haut. On a beaucoup d'hospitalisations. C'est possible dans les prochains jours que le nombre d'hospitalisations augmente. Donc, c'est possible que la prochaine fin de semaine soit peut-être la fin de semaine la plus dure depuis le début de la pandémie dans le réseau de la santé. Et donc, on a pris des mesures pour faire face à ça. Et ça, c'est l'autre nouvelle qui est encourageante. Christian Dubé, avec Sonia Lebel et Jean Boulay, ont eu beaucoup de discussions avec les cinq présidents, présidentes de syndicats. Puis on a pu annoncer ce matin des mesures quand même importantes. Rappelez-vous, là, les mesures qu'on avait annoncées au mois de septembre, ça coûtait 1 milliard de dollars au gouvernement. Les mesures qu'on annonce aujourd'hui, ça va coûter 500 millions de dollars au gouvernement. Donc, c'est quand même des efforts financiers là, que les Québécois font aussi pour aider à passer au travers. Dans les mesures, il y a trois types de mesures. Premier type de mesures, des mesures de mieux-être ou de qualité de vie. Donc, payer les stationnements, payer les taxis, payer les repas, donner des vacances quand ça va être possible de le faire. Donc, tout ce qui touche au mieux-être, à la qualité de vie. Deuxième type de mesures, bien, ce sont des mesures incitatives. Ça veut dire, par exemple, du temps double pour les personnes qui acceptent et qui sont capables de donner plus d'heures dans le réseau de la santé. Puis, troisième type de mesures, ce sont des mesures administratives. Entre autres, s'assurer qu'on ajoute des gens, même s'ils ont moins de formation, mais pour faire la partie administrative et puis être capable de décharger les infirmières, entre autres, de ces tâches-là. Donc, encore une fois, je veux le dire, là, puis c'est vraiment, puis c'est important pour nous. Merci aux cinq chefs syndicaux. Je pense que c'est important qu'on travaille tous ensemble pour passer au travers les prochaines semaines. Et je pense qu'avec ces mesures-là, ça va aider. Ça va nous donner le temps aussi d'arriver avec d'autres mesures. Bon, vous avez vu, entre autres, toutes les formations accélérées. Encore là, je remercie les Québécois qui s'intéressent, là. On a ouvert 2000 formations accélérées pour des infirmières auxiliaires. Il y a eu 8300 inscriptions. Puis on a ouvert 3000 postes pour des formations d'agents administratifs, puis il y a eu 5200 demandes d'inscription. Bon, évidemment, oui, là aussi, il y a des bourses qui sont données, donc il y a des incitatifs financiers, mais quand même, c'est encourageant de voir qu'il y a des Québécois, des Québécoises qui ont le goût de venir travailler dans notre réseau de la santé. Évidemment, ça va prendre un certain temps pour cette formation-là, même si elle est accélérée, mais ça veut dire aussi là qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Bon, la grosse nouvelle du jour, c'est pour ça qu'on a avec nous le ministre de l'Éducation. Je pense qu'on a un ministre de l'Éducation, pas un premier ministre, très heureux aujourd'hui. La santé publique, le directeur national de la santé publique, a annoncé officiellement hier soir que toutes les écoles au Québec vont rouvrir lundi prochain, donc le 17 juin. Je le dirai jamais assez, là, comment c'est important. Parce que c'est pas la même chose, l'enseignement à distance. Ça amène des problèmes de décrochage scolaire, des problèmes de dépendance aux écrans, des problèmes, dans certains cas, chez les jeunes, de santé mentale, des problèmes de toutes sortes, là. Donc, très important que nos jeunes retrouvent leurs amis, leurs enseignants, enseignantes, puis retournent à l'école le plus vite possible. Je pense qu'on ne le dira jamais assez. La priorité au Québec, ça doit être l'éducation. Bon, il y a sûrement là, des parents et des enseignants qui sont peut-être inquiets de comment ça va se passer. Et, encore là, je vais peut-être laisser tantôt le docteur Boileau vous en dire plus long, mais ce que je comprends, c'est qu'on a un tout nouveau virus avec le variant Omicron. Donc, c'est une situation complètement différente qu'on vit, qu'on va vivre dans nos classes, dans nos écoles. Puis le nouveau variant, là, bien, il y a beaucoup moins d'impact chez les jeunes, puis surtout les jeunes qui sont vaccinés. Donc ça, c'est important de le dire, puis je le répète, au secondaire, les jeunes, 98% vaccinés une dose, 90% deux doses, au primaire, 60% Puis les enseignants, mais je le rappelle, depuis la fin du mois de décembre, on leur a permis de passer devant tout le monde pour aller chercher leur troisième dose. Donc, c'est important de ce côté-là aussi. Bon, l'autre chose aussi, c'est que pendant un certain nombre de semaines, on espère pas trop longtemps, tous les jeunes, tous les enfants vont devoir porter un masque. Donc, ça va protéger entre eux, mais aussi protéger nos enseignants. Puis, on continue de distribuer des tests rapides au fur et à mesure qu'on en a. Puis, autre bonne nouvelle, là, l'équipe des approvisionnements a réussi à faire une entente avec une compagnie québécoise qui s'appelle MedSup Médical de Ville-Saint-Laurent qui va nous donner, dans les prochains mois, ça va commencer dans les prochaines semaines, 70 millions de tests rapides. Et une partie, au début, ça va venir d'ailleurs, mais une partie, éventuellement, vont être fabriquées ici à Montréal. Vous savez comment on l'avait dit, c'est important d'être autonome du côté des équipements médicaux. Donc, il y a un pas dans cette direction-là. Bon, encore là, j'ai posé beaucoup de questions au Dr Boileau sur la ventilation dans les écoles. Et le Dr Boileau me rassure en disant que c'est sécuritaire, la situation de l'air dans les classes. Donc, ça, c'est important. Même chose du côté des protocoles. Protocoles, quand il y a un enfant qui va avoir la COVID, il faut comprendre là, que la situation est différente à cause du variant Omicron. Donc, on va demander aux jeunes de s'isoler pour 5 jours. Donc, même chose que dans les garderies. Bon, l'autre nouvelle importante, je l'avais promis, que la première mesure, quand on verrait un petit peu de lumière au bout du tunnel, qu'on enlèverait, c'est le couvre-feu. Donc, je vous annonce qu'à partir de lundi, on va enlever le couvre-feu au Québec. Et je le répète, parce que je sais que ça a choqué beaucoup de personnes, mais la raison pourquoi on a fait ça, c'est pour arrêter la montée exponentielle du nombre d'infections puis du nombre d'hospitalisations. Donc, étant donné qu'on semble atteindre un pic, ça nous permet pouvoir enlever le couvre-feu. Bon, autre chose qui est importante, on avait pour aider les commerçants qui ont de la difficulté à trouver des employés, on avait dit pour 3 dimanches, on va demander de fermer les commerces. Donc, le 3e dimanche, c'est dimanche qui vient, le 16 janvier. Donc, ça va être la dernière journée où les commerces vont être fermés le dimanche. L'autre annonce qu'on a faite, on a eu des discussions avec les représentants des commerces au Québec. Je comprends qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes du côté des petits commerces qui n'ont pas toujours tous les employés pour faire appliquer des nouvelles règles. Donc, je vous annonce que les grandes surfaces, qu'on va définir comme étant 1500 mètres carrés et plus, vont avoir un passeport vaccinal. Donc, il va falloir avoir actuellement 2 doses, éventuellement 3 doses, pour pouvoir aller au Canadian Tire ou aux places, là, excluant, bien sûr, les marchés d'alimentation puis les pharmacies qui sont des services essentiels. Autre point que je veux parler, qu'on a beaucoup entendu parler dans les derniers jours, les dernières semaines, il y a des personnes qui se disent, bien, ça m'a donné quoi de me faire vacciner? Je n'ai pas d'avantage sur ceux qui ne sont pas vaccinés. Bon, d'abord, je veux vous dire, vous avez pris une bonne décision de vous faire vacciner, d'abord pour des raisons médicales. Il reste que même si les risques sont moins grands, il reste que le vaccin protège contre des conséquences graves à l'hôpital. Puis, évidemment, on espère dans les prochaines semaines rouvrir les restaurants, les salles de spectacle, donc être capable de remettre en place ce qu'il y avait avant Noël, c'est-à-dire le passeport vaccinal. Donc, ça veut dire que ceux qui auront été vaccinés vont pouvoir aller au restaurant, aller dans une salle de spectacle, aller au cinéma, aller dans les grandes surfaces. Donc, c'est important. Dernier point, je veux revenir, parce qu'on en a beaucoup parlé depuis mardi, sur la contribution santé. Bon. D'abord, je veux vous dire, oui, je sais que les oppositions l'ont demandé, là, mais oui, il y aura un débat à l'Assemblée nationale sur la contribution santé. Donc, tous les députés, tous les partis politiques auront l'occasion de voter pour ou contre, et puis de proposer des ajustements si c'est nécessaire. Donc, ça, dès la rentrée à l'Assemblée nationale, au début février, on va déposer un projet de loi donc pour mettre en place cette contribution santé. Bon, l'autre chose qui est importante de préciser, l'intention derrière la contribution santé, c'est pas de faire mal aux personnes qui sont mal prises. Là. Puis je donne quelques exemples qui ont été donnés au cours des dernières heures, qu'on parle des itinérants, qu'on parle des personnes qui ont une maladie qui ne leur permet pas de se faire vacciner, qu'on pense même aux personnes qui ont des problèmes de maladie, une certaine maladie mentale. Il n'est pas question là, d'aller faire mal à des personnes qui sont mal prises. Ce qu'on vise, c'est de dire aux personnes qui choisissent de ne pas se faire vacciner, ben, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer parce que il y a un impact sur la société, il y a un impact sur les coûts de notre réseau de la santé. Évidemment aussi, c'est un incitatif pour essayer de les protéger eux-mêmes parce que on espère qu'il y en a, puis on le voit là, peut-être un peu, qui vont choisir d'aller se faire vacciner étant donné qu'il y aura une contribution santé. Donc, protéger notre société, protéger nos hôpitaux, puis protéger ces personnes-là. Je termine en vous disant, évidemment, là, c'est un petit pas qu'on annonce aujourd'hui. On a hâte. J'ai très hâte, entre autres, je pense aux jeunes qui font du sport. Je pense à tous ceux qui ont hâte d'aller recommencer à avoir un spectacle. Je pense à ceux qui ont hâte de retourner au restaurant. On est tous d'accord avec ça ici, en avant. Mais il faut y aller progressivement. Il faut y aller progressivement. Il faut d'abord continuer, puis le Dr Boileau suit bien la situation jour en jour, je dirais même d'heure en heure. Donc, je termine en vous disant, soyons patients, soyons prudents, parce qu'on le sait, après l'hiver, arrive le printemps. Donc, merci tout le monde. Good afternoon, everyone.
Bon, le PM qui a terminé son allocution de début de conférence de presse avec des paroles dignes d'un philosophe, hein, après l'hiver, le printemps. Bon, allons sur le fond. Le PM parle de « bonnes nouvelles », entre guillemets, parle d'un pic des cas qui s'en vient, pic des hospitalisations. Ça, c'est ce que le PM a dit. Il a dit « nos experts nous disent ça ». Écoutez, aujourd'hui, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, l'INES, quand même, là, je sors de la conférence de presse, a envoyé une note pour dire, je vais le lire, que l'INES n'est plus en mesure de produire de façon fiable le rapport de prédiction sur les risques d'hospitalisation puisque celui-ci s'appuie sur le nombre de cas positifs déclarés. Donc, je ne sais pas sur quels experts le PM se fie, mais la patente gouvernementale qui s'appelle INES, qui fait ces prédictions-là, dit aujourd'hui qu'on n'est plus en mesure de faire des prédictions. Donc, j'imagine que dans la conférence de presse, les journalistes vont poser la question. Mais voilà, on a aussi on a confirmé que c'est un retour à l'école primaire, secondaire, lundi prochain. Et des nouvelles aussi sur le couvre-feu, Valérie.
Oui, couvre-feu qui sera levé à partir de lundi prochain. On dit que c'est à cause du pic, comme tu dis, ça nous permet d'enlever le couvre-feu, c'est ce qu'a dit le premier ministre. Et on va aussi avoir la dernière fermeture dimanche le 16 pour ce qui est des commerces non essentiels le dimanche. Ça s'arrête ce dimanche. Et on va aussi étendre le passeport vaccinal à tous les commerces de grande surface. On parle de plus de 1500 mètres carrés. Ça inclut notamment Canadian Tire, Walmart, Costco, tout ce monde. Et ça exclut les marchés d'alimentation et les pharmacies. Et pour ce qui est aussi de la vaccination. Bon, on espère évidemment rouvrir les autres commerces au cours des prochaines semaines. La contribution santé, ça sera, en fait, il y aura projet de loi qui sera déposé dès la rentrée à l'Assemblée nationale. C'est au début du mois de février. Évidemment, tous les partis politiques vont pouvoir débattre de cette contribution santé. Et François Legault a été clair, là, pas question de faire mal aux personnes qui sont mal prises, qu'on pense aux itinérants, aux personnes qui ont des maladies mentales, conditions médicales particulières. Là, ce qu'on veut faire vraiment, c'est qu'il y ait un prix à payer pour les gens qui choisissent de ne pas se faire vacciner. Et c'est eux qu'on vise.
OK. Si vous êtes un parent, vous m'écrivez 98985. Il y a un retour à l'école primaire, secondaire et je veux vous lire là-dessus. D'ailleurs, on aura des intervenants là, qui vont intervenir tout au long de l'émission. On retourne au point de presse.
Lundi, la façon de se prémunir contre le variant, c'est encore la vaccination. Donc, une question en deux volets. Quand est-ce qu'on va avoir la troisième dose pour les 12 à 18? Et est-ce qu'on va reprendre la vaccination à l'école pour les plus petits?
Docteur Boileau, voulez-vous y aller? Oui. OK. Sur la vaccination, c'est évident qu'il faut mettre tous les efforts, là, puis pas juste pour les 12-18, là, mais il faut respecter quand même les délais, notamment, parce que rappelez-vous qu'on a toujours la question du délai de 3 mois. Je pense que l'effort en ce moment, il faut qu'il soit fait sur nos 5-11 ans. Parce que nos 5-11 ans, en ce moment, bien qu'on pourrait se dire satisfait du 60 %, c'est pas assez. Alors, je pense que quand on va retourner la semaine prochaine, ben il faut s'assurer qu'on va mettre tous les efforts. C'est-à-dire que ce sera peut-être pas nécessairement à l'école, mais on va tout faire pour que les enfants aient accès à la vaccination. Puis c'est encore plus vrai dans certaines régions, mais... Encore une fois, je vous dirais que globalement, s'il y a une chose à retenir au cours des prochains jours, c'est que tout le monde doit aller chercher soit sa deuxième dose le plus rapidement possible, mais la troisième dose pour être capable justement de lutter. Alors, on a atteint ce matin, on est content, là, 28 % des gens qui ont pris leur troisième dose. On vaccine, vous avez vu qu'on vaccine déjà... Ça fait plusieurs journées qu'on est au-dessus de 100 000 vaccins par jour. Je pense 117 000 hier, une excellente journée. Donc, s'il y avait un message à vous dire, là, toutes catégories confondues, allez chercher votre deuxième ou votre troisième dose. Et même, les premières doses. Je l'ai dit au cours des dernières journées, on a eu des journées de prise de rendez-vous de première dose à 5 000, 6 000, 7 000 personnes encore dans les derniers jours. Donc, je vous dirais globalement, là, allez chercher vos doses le plus rapidement possible. C'est la meilleure façon de vaincre Omicron.
Merci. En suivi, j'imagine que c'est encore M. Dubé qui va me répondre. La situation ne va pas s'améliorer par magie dans le réseau de la santé. Mm-hmm. Je voulais savoir, vous en êtes où dans la recherche de vos 2500 volontaires que vous cherchiez très, très, très rapidement? Vous en avez parlé mardi. Et est-ce qu'on va accroître pour justement avoir plus de bras, la venue des gens positifs asymptomatiques, comme le demandent les médecins spécialistes, entre autres.
Oui, OK. Bon, on va répondre en deux parties. Bon, c'est évident que le fait qu'on a pu annoncer ce matin qu'on avait eu, un consensus avec les représentants syndicaux de tous les grands syndicats, pour nous, c'est une excellente nouvelle parce que on a vu, puis je ne veux pas rentrer dans le technique, là, mais on avait... Une des mesures qu'on avait, qui était la prime en escalier, qui donnait aux employés que plus ils étaient là à temps plein, plus ça nous permettait d'avoir des gens qui avaient des primes très intéressantes, mais ça s'appliquait à 65 000 employés, ça, depuis le mois de novembre. On a élargi l'étendue à 170 000 employés. Donc, on l'a appliqué à beaucoup plus d'endroits puis à beaucoup plus de postes. On avait réussi, grâce à ces mesures-là, à aller chercher à peu près 1000 personnes, 1000, ce qu'on appelle ETC, des équivalents à temps complet. Mais imaginez-vous, là, on fait 3 fois la mesure, juste cette mesure-là. Alors, c'est évident que si on a le même succès avec l'élargissement de mesures qu'on a eu, bien, qu'on va aller chercher une bonne... Et c'est pour ça qu'on a été... en discussion avec les syndicats presque jour et nuit, je vous dirais, depuis 4-5 jours, parce que c'est en fin de semaine qu'il faut que ça arrive, parce que le premier ministre a dit notre pic, peut-être qu'il est ralenti, mais en termes d'hospitalisation, c'est la prochaine semaine qui va être difficile. Donc, ça, on est très content de cette partie-là. Sur votre deuxième partie de la question avec le docteur Oliva, que j'apprécie beaucoup, on a avec eux une bonne relation. C'est pas facile pour nos spécialistes. En fait, c'est pas facile pour tous les médecins, pour personne. Mais ce que docteur Oliva, où on souscrit le même objectif, c'est qu'il l'a bien dit dans sa déclaration, Omicron est différent. Puis Omicron est différent, puis dit, est-ce qu'on est capable de tenir compte du fait qu'il est différent? Bien, la première chose où on s'entend, c'est de réduire la période. Parce que jusqu'à maintenant, vous savez, quand on avait un employé de la santé, on lui disait que ça prenait 10 jours. Mais ça, c'était selon les anciennes règles du Delta, vous vous souvenez? Fait que là, on l'a ramené à 16 jours. Puis je vous annonce, je veux faire attention quand on dit les bonnes nouvelles, parce qu'on est encore dans une situation critique. Mais juste en quelques jours, on est passé de 20 000 absents à 15 000. Puis ça, c'est la plus belle preuve que non seulement nos gens de la santé qui ont été malades durant les fêtes puis au cours des dernières semaines, bien, ils commencent à revenir. Mais il nous en manque encore 15 000 de ces absents-là. Bien, donc, le docteur Oliva, il a absolument raison. Est-ce qu'on peut gérer cette pandémie-là de façon différente en accélérant le retour des employés? La réponse, c'est oui. Puis là, on s'est ajusté quand la santé publique nous a dit, et ça, c'est le décret 018 qui permet de ramener en autant que la personne n'est plus signe, etc. Je ne rentrerai pas dans le détail. Donc, oui, on s'entend sur les objectifs. Omicron est différent, puis on doit agir différemment. Puis je pense qu'on va finir par passer à travers dans les prochains jours.
Marie-Ève Maurras, La Presse.
Oui, bonjour à tous les quatre. Avant les fêtes, les écoles ont été des lieux bon, très importants d'éclosion. Là, les élèves retournent à l'école, ils vont dîner le midi tous ensemble. Il va y avoir des récrés peut-être s'il fait froid. Ou ils vont tous être dans le même gymnase peut-être. Comment on va faire pour pas que les écoles soient à nouveau des lieux importants d'éclosion dans ce contexte-là? Puis, concernant le protocole de retour, je comprends que quand un élève aura été isolé pendant 5 jours, quand il reviendra, il aura gardé une distance de 2 mètres avec ses amis de classe. Comment on va faire pour faire respecter ça?
Je peux commencer. D'abord, depuis le début, ce que nous disent les gens de la santé publique, puis Dr Boileau, je pense, est encore dans cette direction-là, il pourra le préciser. La contagion dans les écoles, c'est le reflet de la contagion communautaire. Oui, il y a eu des cas dans les écoles l'automne dernier, puis on peut s'attendre à ce qu'il y en ait cet hiver, là, évidemment. Mais il faut faire attention lorsqu'on dit que c'est l'école qui est le moteur de la propagation, alors que c'est souvent le reflet de ce qui se passe ailleurs. Je vais faire un petit détour aussi, parler du plan de contingence. Quand on dit qu'il y a des cas dans les écoles, on peut s'attendre à ce que, malheureusement, il y ait des fois un chauffeur d'autobus qui doivent se retirer. Un enseignant, un membre du personnel. Donc, on a des plans de contingence. Ça, c'est une marche à suivre pour le réseau scolaire quand on manque de personnes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se retourner vers une banque de suppléants, des remplaçants. On va faire de l'enseignement à distance. On a aussi un décret qui permet au centre de service scolaire d'assigner du personnel, par exemple, un conseiller pédagogique qui est un ancien enseignant. On va peut-être lui demander de retourner pour donner un coup de main, passer à travers cette crise-là. C'est possible qu'il y ait, en dernier recours, même des classes fermées. Je sais que des gens se sont inquiétés du fait qu'on avait mentionné qu'on pouvait faire même appel à des parents. Mais je veux préciser quelque chose. On ne demande pas aux parents de devenir des enseignants ni de devenir des suppléants. Il est possible que, de manière exceptionnelle, en dernier recours, temporairement, un parent vienne surveiller une classe. Mais je veux préciser des choses, là. Un enseignant, c'est quand même... C'est quelqu'un qui est formé pour faire ce qu'il fait. Sur la propagation, quand on revient en classe, quand un enfant finit sa période de 5 jours et revient, bien, il porte le masque comme tous les élèves dans l'école. Puis on va essayer, oui, de garder une distance de 2 mètres dans la mesure du possible. Mais le virus étant moins virulent chez les jeunes, on ne peut pas non plus penser qu'en aucun cas, le jeune sera à moins de 2 mètres que d'un autre élève. Puis il ne faut pas non plus voir le péril en la demeure, parce que pendant un certain temps, il y a 1,50 m avec un autre enfant. Là.
Merci. Monsieur Robert, il y a un rapport de votre ministère en mai dernier qui disait que bon, les élèves qui avaient connu des bris de service depuis janvier, c'était principalement les élèves handicapés, les élèves avec des troubles de comportement, difficultés. Qu'est-ce qu'on va couper en premier s'il y a du délestage dans les écoles? pour s'assurer que ce ne soit pas ces élèves-là qui payent, par exemple?
D'abord, ce que je vous dis, c'est que notre plan de contingence nous amène à dire qu'on ne s'en va pas vers le terme délestage dans les écoles. Je ne pense pas que ce soit un terme qui soit approprié. On réouvre nos écoles. Ça ne sera pas parfait. D'accord? Ça ne sera pas parfait. Les prochaines semaines vont nécessiter des ajustements. Je veux faire appel aussi à l'indulgence des parents. Je vous demande d'être compréhensif. Le réseau scolaire va faire au mieux avec les outils supplémentaires qu'on leur a donnés, des outils réglementaires aussi qu'on leur a donnés pour passer à travers. Mais on n'est pas à un moment où on va se tourner vers des bris de service. C'est vraiment en dernier recours pour une période peut-être d'une journée ou deux qui pourrait arriver qu'on doive fermer une classe, mais on s'en va vers une réouverture. Donc, lundi prochain, le 17, on n'est pas en train de gérer des fermetures, on est en train de gérer des réouvertures.
On va passer à la prochaine question.
Oui, Stéphane Blais, La Presse canadienne. Question au ministre de l'Éducation. Avant les fêtes, il y a une distribution de tests rapides aux parents des élèves. Beaucoup de ces parents n'ont pas actuellement de tests rapides en vue du retour à l'école lundi. Est-ce que vous pouvez nous donner, d'abord, est-ce qu'il y aura distribution encore aux parents de tests rapides et quand est-ce que vous avez une date?
Oui, absolument. Dès la semaine prochaine et au cours des deux premières semaines de la rentrée qui commence lundi prochain, on va distribuer 3,6 millions de tests aux parents, donc à nos familles, aux élèves du primaire et du préscolaire.
Par l'école?
Oui, à travers l'école, comme on l'a fait avant Noël. Et on répète l'opération en février. Donc, on parle de plus de 5 millions de tests qui vont être envoyés aux familles à travers les écoles. Au-delà de ça, il y aura aussi à l'intérieur des écoles ce qu'on appelle des tests rapides aussi qu'on peut faire si jamais des enfants ou des membres du personnel développent des symptômes en cours de journée. Je le répète, on n'envoie pas notre enfant symptomatique à l'école en disant « ils testeront à l'école ». On a des tests rapides à la maison. Mais si des symptômes surviennent dans la journée, les écoles vont être équipées pour faire ces tests-là.
Peut-être une question pour M. Boileau. Il y a des enseignants qui réclament des masques N95. Est-ce que vous considérez que les enseignants seraient mieux protégés s'ils avaient des N95?
Bien, je pense que non, dans le sens que c'est pas l'analyse de la situation qui a été faite au cours des dernières journées, pas juste depuis que je suis rentré, là, il y avait quand même une interrogation substantielle qui était soulevée sur les différentes mesures. Moi, je suis arrivé, je me suis assuré d'être bien connaissant de tout cela, puis d'avoir une opinion basée sur la science, la plus rigoureuse, la plus solide et la plus convergente possible. Et en ce sens-là, l'analyse qui est faite, c'est que non, ce ne serait pas vraiment plus sécuritaire. Il n'y a pas un enjeu avec l'ensemble des mesures que vous avez entendues jusqu'à maintenant et les protocoles qui sont mis de l'avant de croire que le milieu de travail et le milieu aussi pour les enfants ne serait pas sécuritaire.
Le N95, donc, ne permet pas un milieu plus sécuritaire.
Excusez-moi, il y a eu un son. Vous m'avez...
Le N95 ne permet pas un milieu plus sécuritaire, c'est ce que vous dites.
Pas dans le contexte des écoles ni des garderies. Bien sûr, il peut y avoir des situations qui l'exigent un peu plus, comme des écoles spécialisées ou qui s'apparentent plus à des milieux de soins, mais je ne veux pas dire que le N95 est inefficace là où on cherche à l'utiliser, notamment dans le milieu de la santé, là où les risques sont différents. Mais dans le milieu scolaire, il n'y a pas de motif de croire qu'il y aurait un avantage d'utiliser ça. La sécurisation est largement assurée par les mesures qui sont proposée par la Direction nationale de santé publique, de concert d'ailleurs avec les directeurs régionaux de santé publique que j'ai consultés et qui convergent tous vers ces adaptations dans un contexte d'Omicron. Alors, il faut entendre que, bien sûr, vous pouvez voir des règles qui se modifient, mais comme ça a été dit, l'Omicron, ça ne se présente pas de la même manière. C'est pas la même maladie qu'on a connue avant. C'est le même virus, mais qui est transformé, bien sûr, là, je ne rentrerai pas dans la physiologie, mais qui fait en sorte d'avoir une expression clinique et une expression populationnelle différente. Et en ce sens-là, toutes les analyses qui sont faites montrent clairement qu'il y a un bénéfice beaucoup plus grand pour les enfants au premier plan de retourner à l'école le plus rapidement possible, parce qu'ils peuvent souffrir de d'autres problèmes de souffrance psychologique et de plusieurs autres. Et là-dessus, là, il y a vraiment convergence, non seulement au niveau national ici, mais internationale. Et dans ce contexte-là, il faut mesurer s'il y a un impact de sécurité sur leur propre santé et celle des travailleurs. Et il n'y en a pas. Il y en a, mais pas de façon telle qu'il faille aller encore plus loin que tout ce qui est...
OK, il y a beaucoup à décortiquer de ce point de presse du Quatuor Santé. Les ministres Roberge et Dubé étaient là, le nouveau directeur de la santé publique, Monsieur Dr Boileau. Le PM était là, on a parlé de la fin du couvre-feu. Dernier soir de couvre-feu, ce sera dimanche. Retour à l'école dès lundi, primaire, secondaire, des nouvelles règles d'isolement, etc. Et il y a beaucoup de questions. Vous pouvez m'écrire 98985 tout au long de l'émission. On va décortiquer ça, on va mettre ça en contexte. Petite pause et au retour, André Veillette, immunologiste et chercheur à l'Institut de recherche clinique de Montréal, va être avec nous pour une première réaction.